Bouburoche, cinquième et dernière partie. Ainsi parla Adèle, et elle vit venir à elle l'étau menaçant de Didoir. Un sursaut la mit sur pied, un cri qui n'aboutit pas, le retrait épouvanté du buste, elle crut bien que ça y était. À l'infini de lâcheté mensongère, de fausseté audacieuse, de tranquille perfidie, qu'avaient évoqué tout à coup ces simples mots négligemment jetés, je ne sais pas, une clarté rouge avait ébloui Bouburoche. Ses mains d'elles-mêmes avaient jailli, et il avait crié un « oui » inexplicable, comme répondu à l'appel de vengeance de son affection trahie, de sa confiance abusée, de sa bonté méconnue. Hélas, sur la douce peau fine, tant de fois baisée et tant de fois chère du frêle cou, ses doigts glissèrent sans force. Il tomba. De ses bras désespérés, il avait ceinturé la taille de l'aimée. En la saillie légère du ventre, à cet endroit où la matinée Pompadour s'enlevait, fleurie et bouclée de mauve, sur le fond noir-bleu de la jupe, il enfouit son front martelé. Un débordement de sanglots, toutes ses fureurs aboutissaient, il n'y avait plus rien là qu'une misérable locumène, sans une haine, sans une rancune, terrassée, qui, de force quand même, se cramponnait aux bonheurs écroulés et s'abîmait dans la même question douloureuse, 20 fois dite, redite et répétée encore. Pourquoi ? Adèle se taisait. Rassurée, elle avait retrouvé son sourire. Par les cheveux, rares un peu déjà de son amant, ses doigts erraient, les effleurant d'une imperceptible caresse. De haut en bas, une dureté sous les cils, elle contemplait son ouvrage, ce pauvre homme, aux larges épaules, secoué de détresse, vieilli de 10 ans en 10 minutes. Enfin, très simple, « Alors là, tout de bon, fit-elle, c'est sérieux ?» À l'extravagance inattendue de cette demande, Bouburoche leva le nez. Elle, de sa même voix calme, reprit « C'est qu'en vérité, tu me fais peur. Je me demande si tu deviens fou. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que je t'ai fait ?»« Ce que tu m'as fait ?» s'exclama Bouburoche. « Mais malheureuse enfant que tu es, nous ne savons que trop, toi et moi. Tu m'as trompé !» De droite à gauche, puis de gauche à droite, Adèle lentement secoua la tête. « Je ne t'ai pas trompé, dit-elle. Tu ne m'as pas trompé ! Jamais !» Du coup, il fut debout. En ses mains, toutes secouées de fièvre, il emprisonnait la tiédeur de 2 petites mains qui ne tremblaient pas. « Mais, et cet homme, misérable menteuse, cet homme ?» Grave. « Je ne puis te répondre, dit Adèle. Il y a là un secret de famille que je n'ai pas le droit de te livrer. Crois ce qu'il te plaira de croire, mais ne m'interroge pas davantage. » Bouburoche, qui s'était certes attendu à bien des choses, n'avait pourtant pas prévu cela. La vérité nous force à confesser ici que cette révélation lui cassa bras et jambes à l'égal d'une volée de coups de trique, et que l'effarement arrondi en ses yeux les lui rendit pareils à ces billes énormes en usage sous le nom de calots dans tous les collèges, lycées, externats, institutions et autres boîtes à bachots de notre doux pays de France. Muet un instant, il s'abîma soudain en un geste d'une largeur à embrasser la sphère terrestre, et en ayant appelé tour à tour à chacun des angles de la pièce, déclara-t-il ça. Sa surprise n'était qu'excessive. Il n'en connut plus les limites, à voir Adèle lui emboîter carrément le pas, à l'entendre abonder bruyamment dans son sens, lui crier qu'il avait raison de ne pas la croire, et qu'à sa place, elle, vous, moi, tous, nous en aurions fait autant. Sans doute, elle le trouvait bien d'un scepticisme exagéré avec une femme qui, 8 ans, avait été sa compagne d'existence et ne se rappelait pas avoir jamais rien fait qui pût le mettre en droit de suspecter sa parole. « Ça ne fait rien, » proclamait cette personne équitable. « Les apparences sont contre moi et je ne saurais t'en vouloir de la faiblesse d'âme qui te pousse à t'en remettre à elle en aveugle. » Et elle souriait douloureuse. « Si tu ne l'avais pas, tu ne serais pas homme, » fit-elle. Ceci n'avait l'air de rien, hélas. C'était simplement tout. L'appel du tic-au-tac, l'invite à la riposte, le moi qui en appelle un autre et entrebâille la porte à la discussion, passerelle négligemment jetée sur le vide du précipice, piège enfin, offert à la semelle de l'infortuné Boubouroche, lequel ne pouvait manquer, ne manqua en aucune façon de s'y engager jusqu'aux cuisses. Malin. Impossible, objecta-t-il. Seulement moi, je prétends une chose, c'est que cacher un homme chez soi n'est pas le fait d'une honnête femme. Il dit, et à la même minute, il fut cueilli comme une poire mûre, pêché comme un gros barbillon. Adèle s'était ruée vers lui, belle d'indignation, les mains folles. « S'il n'était pas une honnête femme, criait-elle, je ne ferais pas ce que je suis en train de faire. Je ne sacrifierais pas ma vie au respect de la parole donnée, à un secret dont dépend seulement l'honneur d'une autre. » Et des pleurs jaillissaient de ses yeux, et en ses accents indignés tenait toute la plainte d'un archange méconnu, tandis qu'elle se laissait choir au giron douillet d'un fauteuil en accusant la vie d'être lâche. Oh, combien ! Lui, cependant, bouleversé et perdu, fixait sur elle des yeux ardents, tout plein du désir de la croire. Pour la seconde fois de la soirée, il sentait, comme ange Pitou dans La fille de Madame Angot, son cœur renaître à l'espérance. Le doute de nouveau germait dans son esprit et à son repentir d'avoir été brutal, commençait à se mêler la crainte d'avoir peut-être été injuste. Le pis est qu'ayant à demi-mot parlé de pardon et d'oubli, à condition bien entendu qu'Adèle jurât de ne plus retomber dans sa faute, elle refusa purement et simplement le marché, n'ayant pas, disait-elle, à accepter le pardon d'une faute qu'elle n'avait pas commise, et étant de celle dont la fierté ne s'accommode pas d'un soupçon. Noble cœur. Ah, elle n'y alla pas avec le dos de la cuillère. Elle le mit tout nu sur le tapis, son cœur, tout meurtri, mon Dieu, tout saignant, percé d'un tel coup de couteau que Boubouroche, à cet affreux spectacle, pensa défaillir de tendresse. En même temps, elle émettait, scandée de hochements de tête pensifs, des réflexions comme celle-ci. Le ver est dans le fruit, jetons-le, ou je renonce à un amour d'où la confiance s'est retirée, ou je tiens à ton affection, mais plus encore à ton estime. Un discours qui trahissait chez elle une force d'âme peu commune, alliée à une rare délicatesse de sentiment. Mais soudain, à propos de rien, comme si l'excès de sa vaillance eût éclaté ainsi qu'une étoffe trop tendue, voici qu'elle se trouva au cou de son amant, sanglotante, bégayant. « Quitte-moi, il le faut, et va-t'en, mais par charité, n'éternise pas mon supplice. » Alors, Boubouroche comprit combien l'homme est bête et crédule. Sur l'immensité de ses torts s'ouvrirent ses yeux dessillés. Ayant enfermé de ses doigts de portefaix les épaules, les frêles épaules de celle qui lui était chère entre toutes, il fit ce que fit le divin maître au jardin des Oliviers. Il inclina la tête et pleura amèrement. Et la tragédie commençait versant brusquement dans les glogues, le massacre attendu accouchant d'une idylle. Un même divan reçut les croupes à côté de deux amants rendus à l'étreinte l'un de l'autre. Telle se dissipe une épaisse nuée devant l'éblouissement d'un coup de soleil prochain, telle se tarit devant des sourires qui renaissaient le flot des pleurs attardés en leurs cils. Quel baiser ! Adèle, un instant, femme de tête qu'elle était, essaya bien de sermonner Bourbouroche et de lui démontrer, preuves en main, le profit qu'il y avait pour lui à la lâcher, comme un paquet de sottises à la laisser crever, simplement dans son coin, de tristesse et d'isolement. Ah, il ne voulut rien savoir, rien, pas même le nom du monsieur de tout à l'heure, le pourquoi de sa séquestration en un rez-de-chaussée de buffet. Honnête homme qui n'entend forcer ni la caisse ni le secret des autres. En sorte que la jeune Adèle, soupirante mais consentante, dut se résigner à ne pas perdre les modiques avantages de la situation, à savoir 300 francs par mois, le loyer, les contributions, les retours de bâton et les petits cadeaux. Je vous dis que c'était une nature d'élite. Or, comme les doigts aux joues rebondis de Bourbouroche et les yeux entrés en les siens, elle le querellait sans aigreur, lui demandant s'il n'était timbré un petit peu, et si elle toujours ne s'était pas montrée la plus délicate des maîtresses, la plus indulgente, la plus sûre. « Chameau !» s'écria le gros homme. Adèle le sursauta. « Qui ? Elle ? Non ! » C'était du monsieur qu'il parlait. Non pas du monsieur au buffet, mais de l'autre, entendez-moi bien. Je dis, le philosophe d'à côté, l'homme à la dialectique serrée, aux apophthegmes persuasifs, fruit d'une âpre et rude expérience. Et songeant qu'un jour viendrait bien, ou de nouveau dans l'escalier, il croiserait ce vieil imbécile, il partit d'un bel éclat de rire, Louis égayé par anticipation d'un bruit de gifle tombant en dru comme grêle sur une face au ton de parchemin. Et c'est tout. Il sécha ses yeux. Il souleva ainsi qu'il le fait d'une plume Adèle qui lui barrait la route, vint prendre au tabouret du piano la place qu'elle y avait laissée chaude, et d'une voix qui vibra aux vitres des croisées, il entonna, soutenu de fantaisistes et invraisemblables accords, « C'est pour la paix que mon marteau travaille, loin des combats, je vis en liberté. » Car il avait, ce pauvre garçon, une éducation musicale limitée. Il savait le forgeron de la paix, le refrain du père la victoire, et un couplet du pied qui remue.